Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers dans ma vie, liberté ou précarité. C'est bien sûr à vous de nous répondre. Si vous cumulez plusieurs emplois, plusieurs vies professionnelles, professeur le jour, chauffeur de taxi la nuit, évidemment, cela existait déjà dans certains pays d'Amérique du Sud, voire dans l'ancien bloc soviétique. Mais aujourd'hui, le phénomène est rebaptisé économie collaborative ou partagée, à la faveur des sites internet qui permettent de mettre en relation une offre et un besoin. Des fonctionnaires, des ouvriers, des chômeurs proposent leurs services ou leurs biens de consommation en location partout en Europe, aux États-Unis. Alors que révèle cette économie des petits boulots et des petits revenus cumulés? À qui profite ce système D? Nous allons en discuter avec nos invités, notamment un patron de la start-up YupiJob. Bonjour Bertrand Tournier.
Bonjour.
Vous avez fondé ce site il y a presque 3 ans maintenant?
Voilà, tout à fait, environ en septembre 2013.
Ouais. Et sur le modèle américain au départ? Parce que ça, il y a des sites de ce type qui existent déjà aux États-Unis.
Alors effectivement, on a découvert un modèle américain, mais l'idée est vraiment venue d'un besoin et d'un besoin personnel.
Donc YupiJob, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors YupiJob, c'est la première plateforme de jobbing en France. Elle met en relation d'un côté des gens qui ont besoin de gagner du temps ou d'économiser de l'argent dans le cadre de petits boulots. Et puis, de l'autre côté, des prestataires de services qui viennent pour générer du revenu, des compléments de revenus, des revenus complets.
Donc, des travailleurs qui louent leur force de travail, leurs bras, leur savoir-faire, leurs services. Et puis, par exemple, quelqu'un qui a besoin de déménager. Hein.
Exactement. Il y a plein de gens qui ont plein de compétences autour de nous. Et c'est parfois nos voisins. Et là, on les appelle et ils viennent nous rendre service.
Émilie Daudet, vous êtes également dans le studio. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur la société collaborative entre mythe et réalité au Crédoc. Bonjour.
Bonjour.
Le Crédoc, c'est un organisme d'études sur les conditions de vie et les aspirations des Français. Ce rapport a été commandé par des entreprises du secteur ou
non,
par l'État?
Non, pas du tout. C'est un cahier de recherche que le Crédoc fait chaque année pour l'État, en fait, pour, sous tutelle du ministère de l'Économie.
Pour savoir où on va dans
oui,
le domaine de l'économie collaborative.
On prend des sujets
ça va très
société. Et voilà, donc c'était le sujet, effectivement, qui est très... très discuté aujourd'hui et nous a semblé intéressant de travailler sur ce domaine-là.
Nous sommes en liaison également avec Désiré Mandilou, économiste, expert auprès de l'Union africaine. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes à Lille avec les moyens techniques de France Bleu Nord et vous interviendrez aussi pour nous dire ce que vous évoque ce sujet qui existe depuis déjà pas mal de temps, pas tout à fait sous la même forme, sur le continent africain. Et bien sûr, quant à vous les voisins, où que vous soyez dans le monde, appelez-nous dès maintenant si vous cumulez plusieurs emplois. Racontez-nous votre situation, 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur notre fil Facebook. John, qui est à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avoir plusieurs boulots, c'est une question de survie. Je viens de terminer un master à l'université de N'Djamena. Je suis à présent commerçant et militaire en même temps, ce qui demande une sacrée organisation. On n'en doute pas. Doudoune à Abidjan. Un seul salaire ne suffit plus, nous dit Doudoune. Je travaille dans un ministère. J'ai aussi ma propre boutique. Il faut un peu jongler au niveau des horaires. Mais globalement, j'arrive à gérer les deux et grâce à cela, je m'en sors financièrement. Je ne sais pas trop comment il fait pour être présent dans son ministère et un temps dans sa boutique. Mais peut-être que Doudoune, vous pouvez nous appeler. Ousmane à Dakar. Tout le monde a plusieurs boulots ici parce qu'on est mal payé. Je suis étudiant, journalier et sociétaire dans un club de pétanque et je cherche encore un quatrième boulot. Bon, étudiant, c'est pas tout à fait un boulot. Enfin, en tout cas, c'est pas considéré comme un emploi rémunéré. Charles de Kigamba, qui est à Bujumbura. Les salaires ne sont pas suffisants pour vivre au Burundi. J'ai 3 boulots. Je travaille 20 heures par jour. C'est extrêmement fatigant, mais je n'ai pas le choix. Fabrice, qui se situe dans l'est de la République démocratique du Congo, à Goma. Moi, je suis contrôleur de gardien et chauffeur de taxi en même temps. La vie n'est pas facile. Mamadou à Dakar, j'ai 2 boulots, dont un qui n'est pas rémunéré parce que je travaille pour une ONG, pour la protection des enfants. J'ai un problème d'organisation, je suis toujours en train de travailler à distance pour l'ONG pendant mes heures de travail rémunérées par mon premier boulot. Alioun, à Dakar également. Le secret pour avoir 2 boulots en même temps, c'est de les aimer. Tes boulots deviennent tes hobbies et c'est alors un plaisir. Vous nous appelez maintenant pour réagir à tous ces témoignages. 33 1 84 22 71 71. Vous avez plusieurs boulots dans votre vie, liberté ou précarité. Et tout de suite, je vous propose d'écouter un témoignage. Sacha, elle est en France, 38 ans, artiste céramiste et restauratrice à ses heures grâce au site internet voulez-vous-dîner.com. Sacha organise plusieurs fois par mois dans son appartement au cœur de Paris des dîners chez l'habitant. Elle reçoit en fait surtout des touristes américains, japonais, coréens, avec qui elle s'installe à table comme une amie, sauf qu'ils payent la modique somme de 58 euros le repas. Sacha gagne en bénéfice entre 40 et 140 euros par dîner, une fois qu'elle a déduit donc le prix de la nourriture. Un complément de revenus non négligeable pour ses petits revenus d'artiste en galère, 900 euros par mois en moyenne en tant qu'artiste. Charlie Dupiau l'a rencontrée à un moment clé de sa journée, 17h, l'heure où le deuxième job ne fait que commencer.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Ah bah, j'étais juste en train de finir un vase que j'étais en train de peindre avant de le mettre au four. Et on va passer à la cuisine. Voilà. Je vais préparer l'entrée, qui est une entrée avec une algue, une feuille d'algue carrée que je fais mariner dans du citron et du soja. Dessus, je mets une tranche de saumon. Voilà, alors après, le plat, je prends un poisson. Je fais des pommes de terre en forme de tour Eiffel. Pour le dessert, en général, je fais des fruits rouges et au milieu, une tour Eiffel en pâte d'amande. Voilà.
Vous vendez aussi, en quelque sorte, votre image de la française.
Tout à fait. Je pense que les gens sont à la recherche de ça. La façon de recevoir à la française, le vin, les plats, la musique, l'élégance. Vous voyez, c'est la belle table. Donc, je peux mettre... steak frites, mais je pense que ça aura moins de succès.
Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce type de dîner rémunéré chez vous ?
Moi, je suis pianiste classique, donc je fais des concerts privés. Et puis, j'ai ce que je fais en porcelaine sur la peinture. En fait, je vends ça dans des boutiques. Et bon, voilà, il y a 3 ans, j'ai perdu des points de vente. C'est comme si j'avais perdu mon travail ou que j'avais été licenciée. Donc, subitement, je me suis retrouvée sans points de vente et donc sans rentrée d'argent.
Et comment à cette époque-là vous faisiez pour payer votre loyer ?
Ah ben je le payais pas. Et j'ai dû partir de mon appartement. Je suis allée vivre chez des amis. Quelques mois et puis après j'ai redémarré. Et du coup j'ai continué à faire ce genre de dîner. Et c'est vrai qu'au début c'était même pas une question de revenus, c'est que ça me remplissait le frigidaire. Parce que quand vous avez vraiment rien, j'ai eu une période où j'étais sans rien et j'ai pas eu le RSA tout de suite.
Le RSA c'est le revenu de solidarité active.
Voilà, ouais, tout à fait. Quand vous avez 1 euro en poche, que vous ne pouvez pas prendre le métro, que vous n'avez rien à manger, bah, il va toujours rester quelque chose du dîner que vous allez organiser. C'est-à-dire que vous faites un dîner le lundi, bon ben voilà, ça, vous avez au moins de quoi manger jusqu'au vendredi. Déjà ça, c'est super. Voilà. C'est de la débrouille, mais c'est de la débrouille élégante. Parce que vous rencontrez des gens, vous cuisinez, voilà, c'est pas aller décharger un camion à Rungis ou faire les poubelles, parce que bon, ça, j'en serais incapable.
Certains syndicats dans la restauration condamnent ce type de site en disant qu'ils font la concurrence à la restauration.
Je comprends que ça puisse être perçu comme une concurrence, ça je comprends tout à fait. Mais la personne qui paye 58 euros pour venir dîner chez l'habitant, elle ne paye pas 58 euros pour payer moins cher que si elle allait au restaurant. Elle paye 58 euros pour aller chez l'habitant, pour découvrir un appartement parisien, rencontrer des Français chez eux... Donc, il n'y a pas de concurrence avec un restaurateur. Ce qui est dommage, c'est de se dire que ça fonctionne parce qu'il y a une nécessité financière. Ça serait top que ça soit tout le temps comme ça.
Alors, sur le repas facturé 58 euros aux clients à domicile, sur ces 58 euros, 10 euros sont reversés au site internet voulez-vous-dîner.com, c'est-à-dire... presque 18% de commission. Je ne sais pas si c'est ce qui s'appelle se gaver ou pas. Bertrand Tournier, vous qui avez un autre site de travail collaboratif.
Oui, alors nous, on ne fonctionne pas du tout sous forme de commission. On fonctionne sous forme d'abonnement, puisqu'on estime qu'en fait, la prestation qu'on met à disposition, elle a une valeur. Et que derrière, qu'on remporte ou qu'on soit mis en relation une fois ou 10 fois avec les personnes qui ont des besoins, ça doit coûter le même prix. Donc en l'occurrence, chez nous, c'est 9,90 €. Et c'est tous les mois comme
ça. Pour proposer, par exemple, 9,90 €, et grâce à cela, je peux proposer ma force de travail.
Alors, vous créez votre profil de prestataire de service sur le site. Effectivement, grâce à 9,90 €, vous avez l'opportunité de pouvoir échanger et de vous positionner sur l'ensemble des offres qui sont proposées sur le site. Et donc, on a des personnes sur un mois qui vont remporter 15-16 jobs avec un ticket moyen de 107 €. On voit que les revenus sont confortables.
Émilie Daudet, comment vous réagissez par rapport à ce témoignage?
Mais en fait, ce témoignage ne me surprend pas parce qu'effectivement, on voit bien que l'économie collaborative s'est vraiment amplifiée, développée avec la baisse du pouvoir d'achat des Français qui est vraiment patente depuis la crise de 2008. Et on voit bien que c'est une solution qui se développe de plus en plus pour des gens qui sont dans la précarité, qui sont au chômage, qui ont besoin d'une manière ou d'une autre, parce que de toute façon, c'est bien que les perspectives macroéconomiques vont pas s'améliorer. Et donc, on comprend que la population a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat. Et donc, ça fait partie des solutions plutôt sympathiques pour arriver à augmenter son pouvoir d'achat, comme dit effectivement très bien l'auditrice. Enfin,
oui, ce travail lui plaît. Hein. Elle préfère qu'autre chose.
Voilà, elle dit effectivement
donc
que
elle est pianiste et artiste céramiste et cuisinière à 16 heures. Mais
et ça lui laisse
une
certaine liberté de temps. Elle peut choisir. Elle a pas d'employeur. Elle a une certaine liberté.
Ça, on sent une envie de partager à travers son message. Hein.
Ouais. Mais pour vous, Bertrand Tournier, alors quels sont les emplois les plus demandés, les prestataires les plus demandés pour faire quoi sur votre site? Vous avez combien de jobbers, ce que vous appelez des jobbers, donc des prestataires qui proposent leur service?
Alors, des gens qui se sont inscrits en tant que prestataires, on en a eu 200 000 depuis le lancement. En revanche,
ne travaillent pas.
Alors, tous ne travaillent pas, parce que déjà aujourd'hui, une plateforme comme la nôtre, elle se développe. Donc on est capable de fournir un certain volume de jobs. Maintenant, pas assez pour répondre aux attentes de tous nos jobbers. On y travaille, bien entendu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le top 5 des jobs postés, nous, on répond à plein de petites problématiques. J'ai envie de parler du déplacement de la machine à laver. Quel prestataire aujourd'hui vient chez vous, prend la machine à laver et la déplace, sauf si vous en avez déjà acheté une dans un autre grand magasin?
Oui, en général, on fait appel à quelqu'un de serviable dans sa famille.
Voilà, sauf qu'avec l'éloignement familial, aujourd'hui, quelqu'un de serviable n'est peut-être pas disponible, n'est peut-être pas à côté et disponible tout de suite en tout cas. On voit que nous, on a aussi beaucoup le montage de meubles de certaines grandes marques, parce qu'on s'est fait livrer le meuble et puis tout d'un coup, il est à la maison, il y a l'armoire qui est immense. Ok, super, mais j'ai pas ni la boîte à outils, ni le temps pour le faire. Et là, tout d'un coup, la question à se poser, c'était quel prestataire faisait ça?
Vos prestataires, ils sont rémunérés comment?
Alors, très simplement...
Ils ne font pas de fiche de salaire.
Alors, on va y venir. Très simplement, nous déjà, la première chose, c'est que nous, on est un logiciel, d'accord? C'est-à-dire qu'on est une plateforme et on répond aux besoins des gens. C'est un site comme le nôtre. S'il n'y a pas de besoin en France, il ne peut pas fonctionner. Si aujourd'hui il fonctionne, c'est parce que d'un côté, on a des gens qui ont besoin de faire du complément de revenus, et de l'autre, des gens qui ont besoin de services. Ça, c'est le premier point. Second point, on fait de la mise en relation, d'accord? Comme plein de sites d'emploi aujourd'hui, qui vont chercher, une entreprise va chercher un futur salarié, le site qui met en relation n'a pas pour mission d'aller consulter le niveau de rémunération.
C'est la mise en relation. Mais ensuite, le paiement. Alors le type qui s'est proposé pour aider une personne âgée à déménager son appartement.
Voilà, donc là, notre premier métier, on les met en relation. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux possibilités. La première, il est entrepreneur et donc il peut générer une facture et son activité est assurée. La deuxième, il est particulier. Et là, dans ce cadre-là, nous, on le rappelle bien sur le site, il faut déclarer, d'accord? Puisqu'en France, un particulier a le droit de travailler pour un autre particulier,
par exemple,
à condition d'être déclaré.
Service, etc. Donc en fait, les gens se débrouillent entre eux ensuite. Vous les mettez en relation, les gens se débrouillent entre eux.
Exactement.
Vous favorisez une partie tout de même de l'économie au noir, du travail au noir.
Alors, nous, on ne favorise
c'est
rien.
C'est ce qu'on peut vous
dire. Alors, bien sûr, ça, on l'entend depuis le début. Rappelons quand même que le service entre les particuliers, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il est là depuis déjà des centaines d'années.
Les petites annonces à la boulangerie, bien sûr.
Ok, on le sait tous. Donc, au contraire, je crois que des plateformes comme la nôtre, aujourd'hui, on est en train de structurer le marché. Nous, on n'est pas en train d'inventer un marché. On est en train de structurer un marché et d'essayer de le développer. Parce que ce brassage économique, il est très intéressant à l'intérieur d'un pays. Et donc, effectivement, la première étape, c'était de structurer, de générer de la confiance et de la sécurité. La prochaine étape, ça va être de rappeler non seulement qu'il y a des règles, mais de leur amener des solutions pour qu'ils puissent, effectivement, pourquoi pas, payer et déclarer en un clic sur le site. Ouais. Parce qu'ils veulent le faire.
Désiré Mandilou, quel est le regard de l'économiste que vous êtes, qui travaillez beaucoup sur le continent africain, quand vous entendez à la fois ces témoignages, ces points de vue de chefs d'entreprise ?
L'économie collaborative, comme on l'appelle ici, c'est un peu dans les gènes des Africains. Donc simplement, en raison de la faible pénétration de l'Internet sur le continent africain, nous, on privilégie le relationnel. Donc il n'y a pas de plateforme collaborative où il y a une offre et une demande de service, mais il y a le relationnel, le bouche à oreille, les réseaux qui font que effectivement, il y a des demandes de services qui sont remplies par des gens qui, eux aussi, sont capables de fournir ce service, tout cela dans un cadre non formel. Mmh. Donc, on dit que c'est de l'emploi informel parce que ce n'est pas déclaré, parce que ce n'est pas enregistré, mais c'est l'économie collaborative, c'est les deux tiers de l'activité économique dans les pays africains.
Mais alors là, ce que vous venez d'entendre pour le cas de la France, aussi bien le témoignage de cette artiste qui est restauratrice à 16 heures, pour vous, c'est quoi ? C'est de l'économie informelle pour l'économiste que vous êtes ?
Pas totalement, parce que comme l'a dit M. Tournier, il y a des gens qui...
Qui vont facturer, certains d'entre eux.
Et il y a aussi des gens qui sont indépendants et qui veulent bien déclarer les revenus qu'ils gagnent. Donc ce n'est pas exactement le travail informel. Alors que le travail informel en Afrique, c'est d'abord c'est une condition d'accès au marché du travail. C'est-à-dire que quand on est diplômé, qu'on n'a pas de travail, d'abord on commence dans les formels.
Oui, on va y revenir d'accès. Bien sûr, hein, cette condition d'accès sur le marché du travail en Afrique. Émilie Daudet, alors là, quelle est la part de cette économie collaborative qui échappe complètement à l'impôt, aux cotisations sociales, aux cotisations. On a entendu que cette jeune femme qui fait de la cuisine chez elle ne cotise pas pour sa caisse de retraite, elle ne cotise à rien dans ce cadre-là.
Oui, effectivement. Alors, donner une part, ça serait vraiment très difficile.
Parce que
pour l'instant, on est vraiment dans le flou. C'est vraiment des sociétés qui se sont créées il y a très peu de temps, qui sont encore quand même à l'échelle de la France assez embryonnaire. C'est 80 000 personnes ou à peu près qui sont inscrites, c'est ça, sur YouPijob, sur 40 millions de personnes actives en France, vous voyez, donc ça reste encore difficile à mesurer, à chiffrer. Ceci dit, effectivement, les problèmes législatifs, on sait très bien que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de le tournant du collaboratif, ça va être comment le régulateur va arriver à intervenir dans cette économie-là.
Quand vous dites le régulateur, c'est-à-dire la fiscalité
la fiscalité sociale. Et aussi du point de vue juridique, c'est-à-dire comment on fait quand il y a litige, comment on fait avec le profil, par exemple, toute l'économie collaborative, les nouvelles plateformes fonctionnent avec le profil et l'évaluation du jobber ou du consommateur aussi, des deux côtés. Et cette évaluation-là, pour l'instant, elle n'est pas régulée. On peut mettre une note très mauvaise à quelqu'un et ça va lui poser problème pendant plusieurs années et personne ne peut effacer. On n'a pas encore de règles définies sur comment gérer ces profils. Et donc, il y a des problèmes de régulation fiscale et aussi des problèmes juridiques.
Et est-ce qu'on sait aujourd'hui en France combien de personnes tirent de véritables revenus de la consommation collaborative ?
Moi, personnellement, je n'ai pas ce chiffre-là.
Alors, moi, j'ai lu, mais j'ai lu qu'il y avait à peu près 5% de la population qui aurait la moitié de ses revenus grâce à l'économie collaborative. Il y a un rapport de la PIPAM qui est sorti au mois de juin 2015 qui chiffre ça.
Un organisme interministériel.
Oui, tout à fait.
Effectivement. Bon, mais on a l'impression qu'on nage dans le flou aujourd'hui.
Oui, on nage encore dans le flou sur cette question-là.
C'est alors,
sûr.
C'est le nouveau règne de l'amateur sur le professionnel aussi. Quand sur YouPijob, un monsieur se propose peintre du dimanche pour aider quelqu'un qui veut repeindre son appartement ou pour lui repeindre son appartement, qui n'est pas peintre professionnel, donc qui ne cotise pas.
Disons que déjà, il n'y a pas de bons professionnels et de mauvais amateurs. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes déjà tombé sur des professionnels qui ont rendu un travail de mauvaise qualité. Donc je
bon,
crois que
ça va pas plaire aux syndicats professionnels de toutes branches.
Non, mais enfin, de toute façon, l'objectif, c'est d'évoquer la partie évaluation. Effectivement, l'évaluation rend un grand service.
On va y revenir, hein, bien sûr, parce que c'est l'un des problèmes de l'économie collaborative. Vous restez avec nous, Émilie Daudet, Bertrand Tournier, Désiré Mandilou. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes, juste après le flash. Vos réactions, vos témoignages, si vous êtes un cumuleur de boulot multicarte, appelez-nous tout de suite.
Le goût du monde.
Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. J'ai plusieurs métiers dans ma vie aujourd'hui. Qui sont les jobbers? Qui sont les consommateurs de services offerts par ces jobbers et payés sur Internet? Peut-on toujours parler d'une économie de partage? On en parle avec vous, Bertrand Tournier. Vous êtes fondateur de la start-up youpijob.com qui a un peu moins de 3 ans. Émilie Daudet, vous êtes auteur d'un rapport sur la société collaborative entre mythe et réalité au Crédoc, une société d'études sur les modes de vie et de consommation. On en discute aussi avec vous, Désiré Mandilou. Vous êtes économiste, entre autres, pour l'Union africaine et vous êtes en duplex grâce aux moyens techniques de France Bleu Nord à Lille. Si vous cumulez plusieurs emplois, appelez-nous, bien sûr, au 33 1 84 22 71 71. Dites-nous si vous avez le sentiment d'avoir gagné en liberté ou plutôt en précarité, ou si vous avez simplement gagné des revenus supplémentaires. Finalement, Émilie Daudet, dans votre rapport du Crédoc, vous dites bien que au départ, l'économie collaborative, l'économie de partage obéissait d'abord à un sentiment, enfin une envie de partager réel, une envie de solidarité, aussi un idéal environnemental. Ça, c'est très valable encore pour le site Blablacar, qui est un site de partage de covoiturage, où c'est vrai qu'on peut se dire, bah tiens, j'ai une voiture, je suis toute seule dedans, pourquoi pas ne pas mettre d'autres personnes dedans, quitte à polluer la planète avec des émissions de gaz à effet de serre, autant remplir cette voiture. Mais aussi, ça peut aussi être l'autre calcul, remplir ma voiture, parce que comme ça me coûtera moins cher, j'amortis mes dépenses d'essence et de péage sur les autoroutes, par exemple. Hein. Oui, alors, qu'est-ce qu'il emporte, finalement? Quelle philosophie l'emporte?
Alors en fait, effectivement, au départ, il y a toute une mythologie qui s'est créée très rapidement sur le collaboratif. Il y a eu un certain nombre de think tanks qui sont sur ce sujet-là et qui voient dans le collaboratif une espèce d'utopie, du partage, du don de soi, de la création de nouveaux liens, etc. En fait, c'est comment dire, le collaboratif, c'est multiforme. Il y a vraiment de tout dans le collaboratif. Il y a aussi bien le covoiturage, mais on peut aussi dire par exemple qu'un site comme Wikipédia, qui est complètement pour le coup non marchand,
l'encyclopédie libre,
voilà, c'est un partage de savoir, c'est de l'économie collaborative, c'est vraiment l'archétype du collaboratif. Mais donc c'est complètement différent de...
Et ça fait partie des 10 sites les plus consultés d'ailleurs.
Tout à fait, donc il y a vraiment un éventail de possibilités dans le collaboratif qui est très large. Après, sur les motivations des individus à participer au collaboratif, ce qui ressort vraiment en premier, c'est la motivation financière.
Mais ceci dit, vous disiez, bon, pour des compléments de revenus, mais c'est aussi du côté des consommateurs, Bertrand Tournier, c'est aussi pour dépenser moins, pour payer moins cher. On sait qu'en France notamment, et pas qu'en France, hein, dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, mais en France, là j'ai le chiffre, 4% de la population considère que leur niveau de vie s'est amélioré au cours des 10 dernières années. Donc c'est très peu, hein. Donc les gens ont réellement... Et le pouvoir d'achat des ménages, ça s'est vérifié. Le pouvoir d'achat des ménages 2014, c'est le même qu'en 2002. Donc, passer par un site, alors que ce soit le vote YouPijob pour faire appel à un plombier, c'est aussi faire des économies. Donc remonter son pouvoir d'achat.
Oui, c'est ça. La consommation collaborative permet aussi de réduire les intermédiaires, limiter les coûts. Effectivement, quand on va appeler quelqu'un qui va venir fixer une tringle à rideau dans un appartement, et on va se retrouver à payer entre 15 et 30 euros, là où effectivement un professionnel qui ne le fait pas d'ailleurs, mais s'il vient, on va être sur des coûts de l'ordre de 60 euros.
Quand vous dites qu'il ne le fait pas, pourquoi?
Parce que ça ne rentre pas dans
petit,
ses activités.
Ça l'intéresse pas.
C'est ça, s'il doit se déplacer pour aller fixer une tringle à rideau, ça va devenir trop coûteux, et donc ce n'est pas des activités qui sont réalisées. Nous, sur UPJob, on a décidé vraiment de booster le service en France. Et donc, tous ces petits métiers-là, montage de meubles IKEA, fixer la tringle à rideau, ou repeindre ne serait-ce qu'un bout de mur dans une cuisine, eh bien, on prend son voisin qui est auto-entrepreneur ou qu'on va déclarer et qui va venir le faire pour un prix.
Et s'il n'est pas déclaré, vous n'en savez rien. Si ça se fait de la main à la main, vous n'en savez rien. De toute façon, ça n'est pas votre problème.
Alors aujourd'hui, nous, on a effectivement, on fait de la mise en relation et on rappelle au moment de la mise en relation qu'il faut le faire. Et je pense qu'on est un des seuls sites de mise en relation à le faire.
Mais alors finalement, vous surfez sur on comble un vide.
Oui, tout à fait. C'est ça. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de booster le service, combler un vide et de permettre à des gens le déménagement, finalement, faire un petit déménagement d'un 20 mètres carrés. Il n'y avait pas de prestataire en face pour le faire sur un prix qui correspond à une personne.
Il y avait des amis et de la famille autrefois.
Exactement. Hein, mais l'éloignement familial fait que on a besoin maintenant de ses voisins pour se faire aider.
Bon, alors, évidemment, votre avis nous intéresse sur le continent africain. Vous êtes de grands cumuleurs également d'emplois. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle du Burkina Faso. Bonjour Camille.
Bonjour Emmanuel, bonjour les amis.
Camille, vous avez 25 ans, vous êtes couturier. Vous-même, vous ne cumulez pas plusieurs emplois, je crois.
Non, pas du tout.
D'accord, vous êtes couturier de votre état.
Voilà.
D'accord, bon. Félicitations. Mais vous avez un voisin qui connaît ces problèmes-là. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un problème ou pas. En tout cas, vous avez un voisin qui cumule plusieurs emplois.
Voilà, j'ai un voisin qui fait deux boulots à la fois. Mmh. Il est vigile la nuit et mécanicien la journée.
Ouais.
Pour lui, bon, il n'arrive pas à s'en sortir avec un seul boulot.
Ouais.
Donc, il a une femme et deux enfants à nourrir. Bon, ses deux salaires même ne roulent pas 100 000 francs.
Ouais.
Donc, il n'a pas congé ni vacances. Son seul repos, c'est quand il tombe malade.
Ah d'accord, la seule façon de se reposer, c'est quand il est malade. Parce que son métier de mécanicien, voilà, dans la journée, ne lui permet pas de vivre suffisamment.
Voilà, c'est ça. Donc, il préfère faire le métier de vigile la nuit aussi, pour éviter un peu.
Mais comment se fait-il qu'un mécanicien ne puisse pas vivre de son métier dans la journée? Il est employé à temps plein?
Bon, au fait, il n'est pas un professionnel. C'est pas un professionnel dans la mécanique. Il fait les deux roues.
D'accord. Il répare des deux roues, mais il n'est pas considéré comme un professionnel, donc il est mal payé, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est ça.
Merci Camille pour votre appel. Nous sommes toujours en liaison avec Désiré Mandilou, économiste. Vous nous disiez avant le flash qu'en Afrique, l'économie informelle est partout, c'est la porte d'entrée pour l'emploi, à l'inverse peut-être des pays développés où, je ne sais pas si c'est la porte de sortie de l'emploi, mais en tout cas, le problème ne se pose pas de la même façon, bien qu'on observe aujourd'hui en Europe, et peut-être que nos auditeurs en Afrique, ça doit les faire sourire, que bon nombre de gens maintenant cumulent plusieurs types de petits boulots.
Oui, mais j'aurais voulu réagir aussi sur la consommation collaborative dont vous avez parlé tout à l'heure. En ce sens que c'est vrai que ça peut être présenté comme quelque chose qui comble un vide. Mais moi, je pense, en ce qui concerne les pays africains, le continent africain, je considère que c'est plus une perspective d'avenir pour l'Afrique. En ce sens que si le milliard de Chinois s'équipe en nombre de véhicules, par exemple, comme les Occidentaux, et si le milliard d'Africains, qui sont le dernier continent à s'industrialiser, s'ils répètent le même modèle, les études montrent partout que la planète est finie et que là, c'est pas supportable pour la planète. Donc, et c'est vraiment une perspective. L'usage partagé des biens est une perspective qui ne doit pas apparaître comme un vide à combler, mais comme un objectif, à la limite macroéconomique, pour les Africains. C'est-à-dire que l'on sache que les Africains ne pourront pas chacun avoir sa voiture, ni deux ou trois ou quatre véhicules, et ainsi de suite. Il faudrait que ce type d'approche collaborative, d'usage partagé des biens, rentre dans les mœurs des Africains pour qu'ils aient un développement, ce qu'on appelle durable globalement. Je considère que c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'on ne le signale pas assez, que les Africains doivent sauter une étape par rapport à la réalité du reste du monde pour rentrer dans le monde qui vient.
Ouais, comme ils ont sauté le téléphone fixe et qu'ils sont arrivés directement sur le téléphone mobile.
Ils sont passés directement au portable. Ils doivent aussi sauter l'étape de la propriété pure et dure des biens. Voilà, comme un véhicule.
Ça veut dire sauter aussi l'étape du statut social. C'est pas simple. Parce qu'on a, nous, quand on fait des émissions sur les véhicules, sur l'automobile, les auditeurs nous appellent du continent en disant c'est un statut social d'avoir une voiture.
C'est ça,
la honte, c'est d'avoir une bicyclette encore sur le continent africain. Ceci dit, aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des gens qui ont une voiture, qui s'en servent peu, d'abord parfois pour des coûts, etc. Et qui la louent, ça se fait, ça. Même si c'est pas répertorié, même s'ils ne passent pas par un site internet pour se mettre en relation, encore que ça pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne pense.
Oui, ça arrive souvent, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que à défaut de plateforme, il y a le relationnel, il y a des locations dans le sens où c'est des réseaux qui permettent de louer un véhicule auprès de quelqu'un qui, lui, n'utilise pas tout le temps. Ça, effectivement, c'est une réalité.
Mais si je peux rebondir, en fait, la plateforme, ça n'a rien révolutionné. Hein. C'est simplement que grâce aux plateformes Internet, on a démultiplié les possibilités. Le fait de faire du covoiturage, la plateforme simplement nous met en relation avec des dizaines de conducteurs qui vont au même endroit que nous, le même jour que nous. C'est pas... avant, ça existait déjà, mais simplement, ça a été multiplié.
Avant, on descendait chez son boulanger pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un dans le quartier qui pouvait nous dépanner. C'est ça, hein,
ouais, Bertrand Tournier. En fait, la difficulté pour un prestataire, c'est une fois qu'il a fait le tour des boîtes aux lettres de ses voisins, s'il veut communiquer un peu plus largement autour de chez lui, avant il n'avait pas trop de solutions ou pas de solutions, alors qu'aujourd'hui effectivement il a des plateformes dédiées pour le faire.
Ouais. Alors si ce n'est que pour ce qui est de la qualité, vous nous disiez non, un amateur peut faire aussi bien l'affaire, c'est la ligne que vous défendez évidemment, Bertrand Tournier. Ouais,
nous on note en tout cas que nos prestataires ils sont bien évalués et bien recommandés et du coup qu'ils enchaînent les petites missions grâce à ça. Donc c'est ce que je disais, il n'y a pas de bons professionnels et de mauvais particuliers prestataires de services. Je crois que ce qui fait la grande différence sur nos plateformes et nos posters, les clients qui viennent chercher des prestataires le disent, ils disent qu'ils utilisent le site parce que quand ils arrivent dans une ville, c'est la meilleure façon de tomber sur quelqu'un de garanti, de sûr, grâce à l'évaluation. C'est un peu comme d'autres plateformes qui aujourd'hui recommandent des restaurants. Quand on voyage, on va prendre un restaurant grâce aux notes, grâce aux évaluations.
Ouais. Mais un prestataire qui arrive, comment fait-il pour avoir une bonne réputation, avoir de bonnes évaluations s'il démarre justement, personne ne le connaît.
C'est une excellente question. Nous, on a trois promesses, dont la sécurité et la confiance. La sécurité, on la traite parce qu'aujourd'hui, on prend les informations telles que la carte d'identité ou la carte bancaire qui nous permet d'avoir de la traçabilité en cas de problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la confiance. Effectivement, il faut rentrer en activité pour prendre les premières évaluations laissées par les posteurs. Néanmoins, avant, on peut obtenir la recommandation d'un ami, d'accord ? Ce qui va effectivement nous permettre de nous mettre le pied à l'étrier. Ça peut être bidon. Je vais un peu plus loin. Au moment de la première sélection, effectivement, quand vous proposez vos services, vous avez une partie commentaire où là, vous allez échanger avec votre posteur, donc votre futur client, et ça va permettre aux clients et aux posteurs d'évaluer le travail et aussi d'évaluer, s'évaluer les uns et les autres. Aujourd'hui, bien entendu que parfois il y a des ratés, mais très franchement, on parle de 2% ou 3%.
Donc vous nous dites en gros, un déménageur amateur, un peintre amateur, un bricoleur amateur fait le travail de la même façon. Alors bien sûr, ce ne sont pas pour des travaux extrêmement complexes où quelqu'un qui vient monter un meuble en kit fait le travail de la même façon qu'un professionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle bonne raison a un consommateur de faire appel à un professionnel ?
Il va venir sur Youpijob pour les petits services de bricolage et de déménagement et il va prendre un artisan, un artisan qui fait de la rénovation pour refaire l'intégralité de sa cuisine.
Mais quand on vous dit vos startups vont détruire des emplois, qu'est-ce que vous répondez ?
Moi déjà j'aimerais revenir sur le terme de précarité, parce que la précarité finalement c'est lié à un niveau de chômage et à un problème de fluidité de l'emploi, d'accord ? Et que en fait, les plateformes comme les nôtres, on est en train de traiter ce problème de précarité. Parce que du moment qu'on arrive à retrouver un petit emploi et à générer du complément de revenus, on gagne en liberté. Et on arrive à assumer ses responsabilités du quotidien, de père de famille, bref, et ses factures entre autres.
Mais ça reste de l'emploi ultra précaire, vous êtes d'accord ?
Écoutez, si on se base sur le modèle du salariat actuel, effectivement, et qu'on le compare, c'est très différent. Mais je vois pas pourquoi c'est pas plus précaire, pardon. Est-ce que demain, et d'ailleurs nous on le voit, on avait des personnes qui étaient au RSA chez nous, qui sont venus sur le site, qui ont commencé à faire quelques petits revenus et qui aujourd'hui sont passés au statut d'auto-entrepreneur. Et le next step, l'étape prochaine, c'est d'aller de passer sur un format SARL ou SAS,
oui.
Parce que le chiffre d'affaires généré est trop important.
Et surtout parce que le statut d'auto-entrepreneur est très peu, peu de protection sociale,
il est limité.
Cotise très peu pour les droits à la retraite, etc.
Mais ça permet de...
Vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Hein.
Non, tout à fait. Alors je l'ai été. D'ailleurs, pendant que j'avais un emploi à l'époque, j'étais aussi auto-entrepreneur. Mais ça permet
vous avez été un cumuleur, vous aussi.
Oui, tout à fait. Et puis par plaisir, parce qu'on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, il y a aussi la consommation collaborative permet de recréer du lien social et puis de se faire plaisir à préparer le dîner, faire à manger pour les autres ou de transporter ses voisins.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
C'est Freshly Grande, le groupe sud-africain Easy Langui. Vous nous appelez si vous cumulez plusieurs emplois au 33 1 84 22 71 71. Je vais y arriver à donner le bon numéro de téléphone aujourd'hui. 33 1 84 22 71 71. Et Émilie Daudet, alors finalement, aujourd'hui, à qui profite vraiment ce système D structuré via l'Internet? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait définir l'économie collaborative aujourd'hui?
Alors, à qui profite, je pense, du point de vue du consommateur, on peut dire que pour l'instant, c'est plutôt les gens aisés qui en profitent. Bizarrement, effectivement, sur les plateformes du type YouPiJob, on va avoir un autre type de profil qui va se dégager. Mais en fait, sur l'ensemble des autres pratiques collaboratives qui rapportent de l'argent, tout simplement, par exemple, pour mettre sa maison, une partie de sa maison en location, il faut qu'elle soit quand même d'une certaine taille. Donc c'est surtout des personnes de haut revenu qui profitent de ça, qui complètent leur revenu grâce au collaboratif. Donc pour l'instant, on peut dire que ça reste quelque chose de un apport complémentaire. Il faudra voir dans quelques années si ce modèle se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent entièrement du collaboratif, à qui sera vraiment sur
Alors
ce
ça,
créneau-là.
C'est pour ceux qui louent leur appartement, qui louent leur voiture, etc.
Mais même
pour
le covoiturage, par exemple, pour l'instant, c'est encore des gens d'un certain niveau de revenus qui...
Mais pour ceux qui louent leur bras, leur savoir-faire, leur service...
Ça sera certainement un autre type de profil, mais c'est assez nouveau. Donc pour l'instant, on a peu de chiffres là-dessus.
Comment vous voyez l'avenir, Bertrand Tournier, les déploiements futurs de votre site YouPiJob? Vous êtes êtes basé en Suisse, l'entreprise est basée en Suisse.
Voilà, tout à fait, on est en Suisse, on est également donc, en France et en Belgique. La France aujourd'hui, c'est le pays qui tracte vraiment l'activité de notre plateforme. Bon, les développements futurs, c'est d'abord d'être très fort dans ces pays-là et puis réellement d'apporter des solutions complémentaires à la plateforme.
Ouais.
Finalement, quand vous allez aujourd'hui louer une maison, vous en parliez, il vous faut une plateforme dans laquelle on voit des photos, un calendrier, il faut qu'il y ait un certain nombre de solutions. Nous, on pense qu'on n'est pas encore à maturité de ce point de vue-là. Donc, notamment, on en parlait tout à l'heure, capacité à encadrer l'activité d'une manière, d'un point de vue des assurances ou pour le déclaratif, où le paiement est déclaratif. On est en train de travailler sur ces sujets-là. Et puis, effectivement, continuer à rassurer nos membres, à savoir que nos posteurs, à plus de 55%, ils reviennent reposter au moins un job dans l'année.
Ce que vous appelez les posteurs, c'est...
Donc, les clients, hein, les gens qui font appel aux jobbers, donc, qui ont des besoins au quotidien de services.
Et pourquoi vous avez monté cette start-up en Suisse au départ, hein?
Alors, en fait, en réalité, on a commencé par la France et puis finalement, on s'est dit tout de suite qu'il fallait également aller en Suisse et en Belgique.
Pour des raisons fiscales?
Alors, en tout cas, pas qui nous concernaient, mais effectivement, dans le cadre de notre développement, les personnes qui nous ont encadrés nous ont demandé effectivement d'aller nous implanter à Genève.
Ouais. Pourquoi donc?
Comme je vous le disais, c'était
plus intéressant pour vous.
C'était une des...
Fiscalement.
Alors, c'était une des demandes, effectivement, des investisseurs qui aujourd'hui prennent des gros risques dans les startups comme les nôtres. Alors, très sincèrement, je connais bien les deux modèles.
Aujourd'hui, alors dans quel pays, puisque vous êtes implanté en France, en Suisse, en Belgique, où est-ce que vous payez les impôts sur votre revenu?
Aujourd'hui,
donc
la société, il y a une société en France, une société en Suisse, une succursale en France, donc qui a une activité en France et donc qui remonte ses revenus français. Vu que le siège social est en Suisse, en fin d'année, elle paye bien ses charges en Suisse, mais comme plein d'entreprises du web, aujourd'hui, il y a plein de sites de consommation collaborative qui sont très très forts en termes d'activité en France et qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Finalement, le web ne connaît pas de barrière, donc nous, on a décidé de développer depuis ce pays-là, qui effectivement va nous permettre de rayonner dans l'Europe entière.
Ouais. Alors, ce sont des sites qui montent très vite, qui sont valorisés très très vite aussi lorsqu'ils sont rachetés. Hein. Il y a des rachats qui sont assez extraordinaires. Aux États-Unis, où est-ce qu'on en est de tous ces sites? Ça reste votre modèle pour vous, le succès des sites collaboratifs, de mise en relation américains?
Enfin, en tout cas, oui, on voit que ce qui se passe, c'est assez incroyable parce que le modèle équivalent à celui du PitchJob aux États-Unis a déjà levé 40 millions de dollars et a conquis toutes les grandes villes des États-Unis et même Londres. Et puis, ils sont arrivés à un niveau de qualité ça représente un modèle pour nous. Donc, je crois qu'aux États-Unis, c'est déjà lancé depuis 2004, 2005 et pour les derniers en 2008.
Comment vous expliquez ces succès-là? C'est pas seulement du succès technologique, ça surfe aussi sur une précarisation constante d'une grosse tranche de la population américaine qui a absolument besoin d'augmenter ses revenus coûte que coûte.
Bon, déjà, les Américains, ils fonctionnent un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème à eux à multiplier les jobs. Hein. C'est même monnaie courante là-bas, on a plusieurs boulots dans une journée. Et puis après, de toute façon, tous ces sites-là, ça part toujours d'un besoin. En fait, une entreprise qui fonctionne ou une idée qui fonctionne, elle est basée sur un besoin. Et aujourd'hui, les gens viennent sur notre site parce que certains veulent économiser de l'argent et d'autres veulent faire des compléments de revenus. Et tant que ça sera comme ça, et tant que la situation sera celle-ci, nos sites vont continuer à grossir.
Émilie Daudet.
Moi, je voudrais intervenir pour dire simplement qu'en fait, il y a deux motivations qui sont assez différentes, il me semble. Il y a effectivement une précarisation plus grande et donc la volonté d'arrondir ses fins de mois. Mais on voit aussi quand même, et là j'irai dans le sens de YouPitchJob, c'est qu'il y a véritablement une volonté d'une part de la population de sortir des relations verticale classique de la société comme elle fonctionne dans nos pays occidentaux, c'est-à-dire de l'entreprise qui offre un produit et du consommateur qui se contente de l'acheter. Et on voit bien qu'il y a une défiance de plus en plus grande des citoyens envers tout ce qui vient des institutions, des entreprises, de ce qui vient du haut, et qu'on a de plus en plus tendance à faire confiance à ses proches, à des voisins, à des gens qui ont le même statut social que nous. Et donc, ça, c'est à la fois, on peut voir ça, le mauvais côté, ça peut être effectivement une sorte de précarisation de la société. Et effectivement, on ne sait pas très bien, dans quelques années, qu'est-ce que ça va donner au niveau du modèle social, de la protection sociale. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus rejeter complètement ça, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une motivation de liberté, de volonté de faire soi-même, de changer les relations très hiérarchie, très hiérarchisées.
Désirée Mandilou, vous qui êtes économiste, il y a encore des messages qui sont postés là sur notre fil Facebook, alors côté continent africain, moi je suis professeur de physique et couturier après les cours financièrement, je suis tranquille mais c'est éprouvant, je suis souvent fatiguée, j'ai peur que cela se voie dans mon travail. Voilà, on a beaucoup de témoignages de ce type. Comment vous voyez l'avenir du travail collaboratif en Europe à la lumière de ce qui se passe sur le continent africain?
Je pense que c'est ce que venait de dire la dernière intervenante. Il y a, sur la question, par exemple, de la qualité du travail collaboratif, ce n'est pas exactement amateur contre professionnel. Je pense que en Afrique, par exemple, on a coutume de dire, oui, voilà, le travail informel, c'est pour les gens qui ne sont pas qualifiés. Mais c'est une très fausse approche parce que il y a des gens qui travaillent dans l'informel et qui ont des compétences solides. Mais simplement...
Mais alors, ne mériterait-il pas, justement, un vrai statut avec une véritable plus de sécurité de l'emploi et un statut plus confortable, surtout?
Oui, mais pour cela, il faudrait justement que le statut formel soit attractif. Or, souvent, il ne l'est pas dans les pays sous-développés. Le statut formel, ça dit qu'il est attractif, c'est que, par exemple, que l'on ait accès au crédit, c'est par exemple que, qu'on renforce les tribunaux.
Mais en Europe non plus, hein, quand on est sur ce type de job et de cumul d'emplois, je ne sais pas si on est très bien placé pour prendre un crédit, par exemple.
Oui, mais ce que je veux dire, disons simplement les services publics. À Singapour, par exemple, les autorités ont mis à la disposition des restaurateurs ambulants des espaces. Par exemple, ils ont accès à l'eau et ils offrent des services, par exemple, pour le ramassage
des
déchets.
Voilà, un apport de confort. Merci en tout cas à vous trois. Émilie Daudet, votre rapport sur la société collaborative est en libre accès sur le site du Crédoc. Bertrand Tournier, fondateur de la start-up youpijob.com. Merci d'être venu également, Désirée Mandilou en duplex à Lille. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de l'émission sur le handicap et la sexualité. Quel droit à la sexualité pour les personnes handicapées? Faut-il légaliser le métier d'assistant sexuel? Ne manquez pas notre reportage et le débat qui suivra. RFI parle.